Est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est bon, super. Bonjour à tous. Je vous propose qu'on se pose aujourd'hui une question assez simple et assez fondamentale, en tout cas pour tous ceux qui sont ici ce matin. Vous êtes venus et donc c'est probablement que vous pensez qu'il y a une raison pour laquelle ça vaut le coup de venir passer quelques minutes ici. Et pourtant, c'est quand même assez particulier. Hormis les lieux de culte, il n'y a aucun endroit dans le monde où des gens se rassemblent pour parler de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas complètement et puis pour passer leur temps à dire du bien de cette chose qu'ils ne maîtrisent pas complètement. C'est quand même assez surprenant. Et donc, je vous propose de voir voilà, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire quand on vient ici pour le louer. Et tout particulièrement, je vous propose de voir avec les derniers chapitres de l'Épître aux Romains, comment cette louange qu'on est appelé à apporter à Dieu, elle est nourrie et elle est enrichie par le fait qu'elle soit communautaire et pas juste individuelle. Et puis, je vous propose de voir un petit peu, à travers ce que nous dit Paul dans les chapitres 12, 13, 14, 15, on ne lira pas tout, mais à travers ces chapitres, de voir un peu quel est le chemin qu'il nous propose pour qu'on puisse mieux comprendre ce que c'est que la louange et comment la vivre de manière vrai et biblique selon Dieu. Non, c'est pas celle-ci. C'est clair, est-ce que ça marche ou est-ce que c'est censé marcher? Il y a de la batterie, c'est sur le côté. Ok, d'accord, ça marche. Je vous propose de voir juste avant, donc grosso modo, hein, la première partie de l'Épître aux Romains, les premiers chapitres, c'est un peu ce qui rappelle qu'est-ce que c'est le salut, que les chrétiens croient, le fait qu'on est justifié parce que Christ est mort sur la croix. Et puis après, il y a quelques chapitres un peu plus compliqués, les chapitres 9, 10, 11, qui parlent de ce grand plan de Dieu pour l'humanité et en particulier à travers le peuple juif. C'est des chapitres qui ne sont pas toujours très clairs à comprendre. Et la fin de ce passage, donc ça conclut cette grande section un peu plus théorique et compliquée sur le salut et puis le plan de Dieu pour les juifs et puis toutes les nations. La fin se conclut en disant, bah, en fait, vraiment, même Paul, lui, que les plans de Dieu sont insondables à la fin du chapitre 11. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui est son conseiller? Et la fin, tout est de lui, par lui, pour lui, à lui la gloire pour toujours. Donc c'est ça qu'on est en train de faire ce matin, c'est de chanter et de louer la gloire de Dieu. Et son objectif, c'est qu'on ne soit pas tout seul à louer, qu'on ne soit pas que deux ou trois, mais qu'on soit vraiment un très grand nombre et dans la diversité. Et c'est ça qui est aussi important. Je le remonte un peu. Pour ceux qui sont un peu plus qui aiment les petits schémas plutôt que les images, on peut aussi voir le fait que pour que la gloire de Dieu augmente, pour que sa renommée augmente, il y a deux aspects qui doivent augmenter. Et c'est ça qu'on fait en ce moment. C'est on augmente la quantité, on pourrait dire, cette courbe qui croît, la quantité de la renommée de Dieu. Il faut qu'elle soit dans notre vie, dans nos cœurs, qu'il ait de plus en plus la première place. Et il y a aussi un aspect un peu qualitatif de diversification. C'est-à-dire que la renommée de Dieu, elle sera plus grande si elle croît au sein de personnes différentes et vis-à-vis des aspects différents de notre vie. Donc ça, c'est le présupposé de la louange. On a envie que la renommée de Dieu grandisse. Et l'objectif que Paul va développer, il me semble, dans ces passages, dans les chapitres 12, 13, 14 et 15, est centré au moment du chapitre 15, où il est rappelé, cité quelques versets de l'Ancien Testament qui montrent la gloire de Dieu et le fait que nous, maintenant, le dimanche, on vient pour le louer. Donc ça, c'est au chapitre 15, qui dit que, voilà, on est ensemble, juifs et non-juifs, pour glorifier Dieu pour sa compassion. On doit le reconnaître parmi les peuples. Ça, c'est le verset 9. On chantera son nom parmi les peuples. Ça, c'est cet aspect un peu de témoignage. On est ce flambeau, cette lumière sur la colline, on doit le chanter parmi les autres. Verset 10, « Nation, soyez en fête avec son peuple. » Ce qu'on fait le dimanche matin, c'est une fête. C'est une joie d'être là devant Dieu. Au verset 11, « Louez le Seigneur, vous, toute nation, et que tous les peuples le louent. » Et là, il y a déjà cet aspect un peu missionnaire de dire que quand on loue le Seigneur, quand on est ensemble, parfois au sein même de notre culte, peut-être aujourd'hui, il y a parmi nous des personnes qui n'ont pas encore décidé que Dieu est la première personne de leur vie. Et donc, on est là aussi pour inclure chacun, pour que chacun petit à petit mette sa main sur Dieu et que tout le monde puisse le louer. Et ce qui est aussi la particularité de notre foi et donc de notre louange, c'est qu'on loue quelque chose en espérance. C'est-à-dire que oui, la base de notre louange est sur un événement historique de la croix, mais en même temps, l'accomplissement plein des promesses de Dieu est pour plus tard. Au verset 12, là c'est un passage d'Ésaïe qui est cité, « Il paraîtra, le rejeton d'Ésaïe, celui qui se lèvera pour commander aux nations, les nations espéreront en lui. » Voilà toute cette louange qu'on est appelé à faire. C'est à la fois quelque chose de témoignage, à la fois une fête, quelque chose qu'on est appelé à faire pour que de plus en plus de monde le fasse avec nous, et quelque chose de mystérieux parce que c'est quelque chose pour le futur aussi. Et donc ça, il me semble que c'est le passage sur la louange qui est le plus clair dans ces passages de Romains. Et il y a tout un cheminement pour arriver à ce que cette louange communautaire soit nourrie, soit pleine de force. Je vous propose de suivre le déroulé de Paul. Tout ceci, voilà, j'ai oublié de dire, mais donc la croix n'est pas citée dans ces versets, dans ces citations sur la louange, mais on a vraiment le sentiment qu'elle est en filigrane, puisque quand il est dit dans Ésaïe qu'il paraîtra le rejeton de Jessé, ben voilà, c'était cette promesse que le fils de David allait venir, et il est venu sur la croix. Donc tout d'abord, au chapitre 12, les deux premiers versets nous parlent de la louange individuelle. Je vais lire ces deux premiers versets. « Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toutes les bontés de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous un culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » À la base de tout, il y a un engagement personnel et si on vient ici, c'est un sacrifice individuel, personnel, qu'on offre à Dieu et c'est ça, ce culte qu'on veut lui offrir. Ce qui est parfois difficile, en tout cas moi je trouve, c'est qu'en venant ici, on peut se dire qu'est-ce que j'ai vraiment à offrir et si on pense à cette notion de sacrifice et qu'on imagine un agneau qui va aller sur cet autel, parfois j'ai plutôt l'impression de ressembler à ça et je me dis est-ce que c'est vraiment digne que ça aille sur l'autel qu'on offre à Dieu. Quand on regarde à sa propre vie, on a parfois l'impression, alors hormis la ressemblance physique dans mon cas, mais si on regarde un peu sa vie, je trouve que des fois, en termes de ce qu'on offre à Dieu, on pourrait se dire, bon, c'est pas très glorieux, quoi. Et donc là, il y a un premier encouragement dans ce premier pas qu'on fait dans la louange qu'on vient offrir ce matin, c'est que ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas juste à nous qui nous offrons nous-mêmes. C'est si on ne se conforme pas à ce monde-ci, on va être transfiguré par le renouvellement de notre intelligence. On va être transfiguré et donc on va arrêter de ressembler à ce mouton ignoble et on va devenir progressivement un sacrifice qui est acceptable devant Dieu. Donc ça, c'est le premier encouragement, c'est le premier principe individuel. Dans cette louange qu'on vient apporter à Dieu, il y a une première grâce, c'est que oui, parfois, notre cœur n'est pas magnifique, mais Dieu va le rendre beau petit à petit. Et ensuite, on est plusieurs sur ces chaises, c'est parce que Dieu nous appelle à quelque chose de collectif. On est une communauté qui vient pour le louer. Et ça encore, c'est un encouragement, je vous propose qu'on lise les versets 3, et puis je lirai quelques-uns des versets entre les versets 3 et 8 de ce même chapitre. par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Il y a une multitude de parties dans notre corps, qui est un seul. Toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction. De même, nous, la multitude, ici nous sommes différents, nous sommes un seul corps dans le Christ, nous faisons tous partie les uns des autres. Mais nous avons des dons différents de la grâce. Et il est question de différents dons, il est question de parler, de servir, d'encourager, d'avoir la compassion. Et je pense que c'est important de se rappeler que si on apporte notre louange ensemble, c'est qu'on apporte une louange qui est différente, chacun. Et dans cette communauté, j'aimerais nous encourager aussi à discerner à la fois pour nous-mêmes, et puis parfois on peut peut-être aussi aller vers quelqu'un avec humilité et simplicité, peut-être, mais avec humilité, et dire peut-être toi, je vois en toi ce don particulier, et tu apportes ça à l'Église. Et donc ça, c'est un pas de discernement qui nous ramène plus proche de cette louange, parce que progressivement, on va laisser la place à tous les dons que Dieu a donnés dans chacun d'entre nous. Et donc ça, c'est une force aussi, parce que parfois, on pourrait se sentir un peu seul sur notre chaise. C'est pour ça qu'on arrive ensemble ce matin au même moment. C'est parce qu'on est différent. Et donc, il y a un premier appel de discernement à avoir pour savoir voilà, quel est notre rôle à chacun. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a vu un peu quel est notre rôle, il y a aussi une nécessité de collaboration. Et pour que ces articulations fonctionnent, là aussi, il y a tout un travail à faire pour que la louange qu'on apporte ensemble puisse être ajustée et sonne juste. Et une fois qu'on a vu ça, je pense que la question qui va être déroulée par Paul dans les chapitres d'après, c'est comment ça fonctionne, d'où vient la force pour que cette mécanique d'une louange communautaire fonctionne. Il ne suffit pas, je pense, de juste venir le dimanche matin et de chanter. Dieu, par la bouche de Paul, nous appelle à quelque chose de plus, à avoir une musculature solide fournie. Et pour ça, il me semble qu'il y a trois valeurs principales que Paul va développer dans les passages qui suivent pour que la force qui va nourrir notre louange ne soit pas disproportionnée, mais qu'elle soit vraiment juste et que ça soit quelque chose que Dieu veut vraiment. Pour ça, je pense que Paul structure un petit peu la suite de son passage autour de trois valeurs phares. Dans la première partie, la suite du chapitre 12, le chapitre 13 et le chapitre 14, c'est la théorie. Et il y a trois valeurs principales qui sont régulièrement mises en avant. L'amour, le devoir et puis l'humilité. Et après, à chaque fois, on voit que dans la fin du chapitre 15, je ne le fais pas aujourd'hui, mais je pense qu'on pourrait le voir aussi dans les salutations du chapitre 16, c'est mis en valeur par l'exemple de la vie de Paul, comment on peut vivre cet amour, ce devoir et cette humilité. Pour que notre louange communautaire soit vraiment nourrie d'une affection profonde, il faut que notre cœur ait un amour les uns pour les autres. Je propose de voir juste quelques aspects. Dans le chapitre 12, par exemple, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Voilà, il ne suffit pas juste de venir le dimanche matin, de 10 à midi, de chanter, de repartir. Si on le fait en n'ayant pas d'amour pour ses frères et sœurs, pour X ou Y raison, ce n'est pas une louange qui va faire honneur à Dieu. Sans hypocrisie, hein, ce n'est pas facile. On n'est pas juste là pour montrer sa belle voix. On n'est pas juste là pour dire qu'on sait bien prier. Mais on est là pour aimer nos frères et nos sœurs. On est là pour, comme le dit le verset 10, être plein de tendresse les uns pour les autres dans l'affection fraternelle. Voilà, ça c'est un premier encouragement qui est assez fort. On le voit aussi au chapitre 13. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas. Tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voilà la première chose à laquelle Paul nous appelle, si on veut que notre louange soit quelque chose qui honore vraiment Dieu, si vraiment on est venu avec ce cœur ce matin d'avoir envie de le louer et que sa renommée grandisse sur terre et à Chambéry, premier appel, aimons-nous les uns les autres, malgré nos différences, malgré le fait qu'en travaillant ensemble, c'est sûr, parfois ça s'effrite, mais voilà, il faut reconstruire pour l'amour. Il me semble discerner que dans l'exemple de Paul qu'il raconte à la fin du chapitre 15, au verset 30 de ce chapitre, je vous encourage, mes frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Donc un premier pas, peut-être, pour nous aider à nous aimer les uns les autres, ça serait de prier les uns pour les autres. Quand Paul nous encourage par l'amour de cet esprit qui doit nous unir, c'est pour qu'on ait un genou à terre les uns pour les autres. Paul, il demande des prières pour lui-même. Voilà. Oser demander des prières aussi pour les autres, pour soi-même, je veux dire, c'est laisser la possibilité que l'autre nous aime. Et donc ça, ça va dans les deux sens. Paul, là, il fait ce pas d'humilité, de dire, ben voilà, j'ai besoin que l'amour qu'on vit puisse se vivre parce que, de manière à ce que vous m'aidiez par la prière. Et puis réciproquement, quand on prie, on aime son prochain. Et donc ça, c'est un encouragement à pouvoir le vivre ensemble dans cette communauté. Si on veut que la gloire et la renommée de Dieu grandissent ici à Chambéry, il faut que notre communauté ici puisse s'aimer et prier les uns pour les autres. Un autre aspect qu'on voit, c'est un aspect qui est peut-être moins naturel pour nous au XXIe siècle. Il y a une forme de devoir, une forme de point d'honneur à s'engager dans cette communauté. Alors dans le chapitre 13, il est question dans les premiers versets, du verset 1 à 7, de la soumission aux autorités. Et il est rappelé que toute autorité vient de Dieu. Au verset 7, il est rappelé, ben voilà, rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. On est une communauté où doit se voir et se vivre une forme de justice sociale, relationnelle. Il y a une forme d'un engagement à laquelle on est appelé. Il y a, voilà, on n'y vient pas juste avec un pied dedans, un pied dehors. Si on s'engage à louer Dieu dans cette communauté, on s'y engage avec vérité et avec un honneur de pouvoir l'assumer jusqu'au bout. Voilà. Au verset 11, il nous dit, vous savez dans lequel temps nous sommes, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. On ne peut pas s'engager dans une volonté de louer Dieu ensemble, juste comme ça, et puis en venant un dimanche sur cinq, et puis dire, bah, c'est bon, j'ai fait ma BA pour le mois et c'est bon. Si on vient louer Dieu, sincèrement, ça demande un réel engagement et il faut se réveiller parfois, concrètement le matin, le dimanche matin, mais de manière sincère, qu'est-ce que je veux apporter comme engagement vrai dans cette communauté? Et une manière, en tout cas, avec laquelle ça s'exprime dans la vie de Paul, c'est par ses voyages. On le voit dans le chapitre 15, à partir du verset 22 jusqu'au verset 29, il explique que, voilà, il avait envie d'aller voir les églises à Rome. Et puis en même temps, en ce moment, c'est compliqué parce qu'il doit aller à Jérusalem. Mais voilà, il explique pourquoi il va à tel endroit, pourquoi il va ensuite aller à tel autre. Et je pense que ça peut peut-être nous motiver, nous. On n'est pas tous appelés à être le missionnaire qu'a été Paul et à prendre un bateau pour aller à quelque endroit, mais on est au moins invités à aller les uns vers les autres dans notre communauté. Si Paul, lui, il va à Jérusalem, il va à Antioche, il va à Rome, bon, bah, peut-être que nous, on peut aller déjà à La Motte, Servolex, peut-être qu'on peut aller à Nouvelles, peut-être qu'on peut aller à Montmélian, aller se voir les uns les autres et exercer l'hospitalité. Et ça, c'est une communauté qui fera honneur à Dieu de voir qu'on prend soin les uns des autres. Cet engagement qu'on a dans ce qu'on vient louer Dieu, il doit s'exprimer et se vivre dans la semaine par un engagement qu'on a les uns vers les autres. c'est bien et c'est beau d'avoir un engagement pour ce bâtiment ici. Merci à ceux qui font le ménage, par exemple. Mais il est important de se souvenir qu'on est d'abord appelé à prendre soin les uns des autres dans l'hospitalité, à ouvrir notre porte ou à les visiter. Et donc, c'est ça aussi qui sera rendre gloire à Dieu de la bonne manière si on arrive à s'engager vraiment pour la communauté. La troisième grande valeur qui est prônée par Paul dans ces chapitres, c'est l'humilité à plusieurs moments. On peut voir dans le chapitre 12, au verset 16 par exemple, « Soyez bien d'accord entre vous, ne soyez pas orgueilleux, laissez-vous attirer par ce qui est humble et ne vous croyez pas trop avisé. » Je trouvais cette phrase très, très étonnante. Hein. « Laissez-vous attirer par ce qui est humble. » C'est peut-être qu'un prof de français dirait que c'est un oxymore. Hein. Enfin, naturellement, on se laisse attirer par ce qui est tout sauf humble, ce qui est tape à l'œil, ce qui nous attire. Ce n'est pas l'humilité. L'humilité, justement, c'est la personne qui ne veut pas être l'objet de tous les regards. Et pourtant, au sein de notre communauté, si on veut que notre louange honore Dieu, il va falloir qu'on accepte des normes qui ne sont pas les normes usuelles, mais les normes du royaume de Dieu, et se laisser attirer par ce qui est humble. Voilà, ça, ce n'est pas facile. Je pense que ça demande de notre part beaucoup d'apprentissage progressif, de laisser tomber notre ego et voilà, d'aller voir peut-être les personnes qui sont moins en vue, d'avoir peut-être plus d'empressement à aller saluer une personne qu'on ne connaît pas, ou même si on n'est pas sûr, est-ce qu'elle est déjà venue, est-ce qu'elle vient à cette église depuis plusieurs années, mais je ne l'ai jamais vue, ben voilà, c'est pas grave, vaut mieux y aller, plutôt que de toujours aller saluer la personne qu'on connaît bien. Voilà. Mais est-ce qu'on ose aller voir aussi ceux qu'on connaît moins bien ? Cette humilité, on peut la lire aussi au chapitre 14. Tout un développement que je vous encourage à creuser chez vous pour accueillir celui qui est faible dans la foi. Tout le chapitre 14 et le début du chapitre 15, c'est un passage qui dit ben voilà, la manière avec laquelle on vit notre foi, on n'est pas tous égaux à cause de notre parcours, à cause de nos origines, à cause de notre compréhension, à cause de la conscience que Dieu a placée en nous. Et parfois, on va vivre notre foi de manière un peu différente. Faisons attention à ne pas blesser d'autres parce qu'on pense que telle manière d'être ou telle manière de faire n'est pas forcément nécessaire. Mais voilà, ayons de l'humilité et osons considérer l'autre supérieur à soi-même. Ça, c'est vraiment cet appel à l'humilité. Et l'humilité à laquelle nous appelle Paul, pour que notre louange soit belle aux yeux de Dieu, ce n'est pas juste un écrasement de soi-même. Il me semble que lui, il l'a vécu avec audace, mais aussi dans la transmission. Pour Paul, il me semble que son humilité se voit parce qu'il a cherché à transmettre et à passer le flambeau, dans un sens. C'est aussi ça, l'humilité, c'est accepter de faire venir quelqu'un d'autre plutôt que soi, c'est transmettre ce qu'on sait faire à quelqu'un d'autre. Et on voit, quand Paul dit au chapitre 15, verset 14, voilà, « Je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonté, rempli de toute la connaissance et capable de vous avertir les uns les autres. Bah, » Si on s'arrête une seconde, c'est une phrase qui témoigne de l'humilité, parce que Paul, c'était quand même quelqu'un à qui Dieu a révélé particulièrement beaucoup de choses sur le salut, sur notre foi. Il a écrit toutes ses épîtres qui sont fournies. Il vient d'en écrire une. Il vient d'avoir écrit déjà 15 chapitres aux Romains. Et il leur dit, je suis persuadé, vous êtes plein de bonté, rempli de toute la connaissance. Voilà, ça, c'est un exemple d'humilité. Il dit, vous êtes capable de vous avertir les uns les autres. Alors même que Paul est en train d'écrire cette lettre, il leur dit, voilà, je sais que vous êtes capables. Donc ça, peut-être que dans notre église, on peut aussi s'encourager à cela, à ce qu'on laisse la place à d'autres, à ce qu'on amène quelqu'un pour tel service, qu'on l'encourage à grandir dans tel acte qu'il peut faire pour Dieu. Donc finalement, si résume un petit peu. Notre louange, elle est premièrement motivée par le mystère que représente Dieu. On a envie que sa renommée, sa gloire grandisse parce qu'on sait qu'il a un plan incroyable pour nous, pour les autres. Et donc ça, c'est la fin de toute cette grande partie qu'on peut lire, les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, qui nous parle de ce salut merveilleux, de la justification par la foi, de la grâce, qui nous parle, même si on ne comprend pas tout et que parfois on n'est pas forcément d'accord sur la compréhension des chapitres qui parlent du peuple juif. Voilà, à la fin de tout ce grand passage, à la fin du chapitre 11, Paul dit « Dieu est incompréhensible, gloire à lui ». Donc ça, c'est la base. Pour venir ici, et peut-être pour certains, ça pourrait ne pas encore être le cas, il faut avoir fait un choix de ce que ce sacrifice soit quelque chose de personnel. Il y a d'abord un pas individuel. Si on veut offrir notre corps, c'est en réponse au sacrifice de Jésus. Donc si quelqu'un ici aujourd'hui n'a pas décidé de s'engager dans la grande communauté de la foi, de ceux qui croient à ce sacrifice, c'est encore possible aujourd'hui. Si quelqu'un voulait une explication plus claire de ce salut de quel on parle, il y a, je pense que ne serait-ce que poser une question à son voisin à la fin du culte, et puis si la personne ne sait pas répondre, elle trouvera quelqu'un. Mais voilà, ne pas partir d'ici si on n'est pas certain de qu'est-ce que c'est ce sacrifice de Jésus pour soi et ce sacrifice qu'on peut en retour lui apporter. Dieu ne nous laisse pas seuls pour que sa louange soit valable. Il nous demande de la faire en communauté. Alors que ce soit bien clair, je ne suis pas du tout en train de dire à toutes les personnes qui sont assises ici ce matin, maintenant que vous êtes assises ici, tous les dimanches, il faudra être à l'église baptiste de Chambéry, à Bessy. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais je pense que Dieu nous appelle à ce que son royaume de Dieu, on puisse le vivre au sein d'une communauté. Il y a une tendance, en tout cas on l'a remarqué avec Emma, parfois avec des personnes qu'on connaissait qui étaient très engagées dans la foi, très engagées dans l'Église, qui se sont un peu séparées de l'Église locale établie et qui veulent essayer de vivre la communauté différemment. C'est des chemins qui sont parfois surprenants. On comprend aussi que les églises parfois déçoivent, on reste des humains pécheurs. Mais en tout cas, ce qui est important, je pense, pour chacun d'entre nous, c'est de continuer à s'insérer dans une communauté de croyants et de s'y engager. On ne peut pas, en tant que chrétien qui croit en la Bible, juste dire « moi, je vis ma foi et je loue mon Dieu dans ma chambre et puis ça suffit ». Non, Dieu nous appelle à une louange qui soit communautaire et on a besoin les uns des autres. Ça demande du discernement, de voir les dons de chacun, de collaborer. Parfois, ce n'est pas facile, mais pour que ça puisse être facile, pour que ça puisse être plus fort, on a l'ensemble de ces trois axes de travail que Paul nous propose. Travailler sur l'amour, qui peut se développer dans la prière. Travailler un engagement, qui peut notamment se développer dans l'hospitalité les uns envers les autres. Et puis, grandir en humilité, en laissant la place à quelqu'un d'autre ou en allant voir quelqu'un qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et ça, c'est ce qui permettra, au centre de ces versets, chapitres 12, 13, 14 et 15, d'avoir une louange qui soit digne de Dieu, de pouvoir chanter le nom de Dieu comme on l'a fait ce matin, de manière bénéfique. Et voilà, si l'organisation un petit peu de ces chapitres peut nous laisser un message de conclusion, c'est que s'investir dans une communauté locale, même si ce n'est pas ici à Bissy, ce n'est pas juste venir chanter le dimanche et écouter une prédication et repartir ensuite en ayant pris le temps de boire un café. Pour que notre louange soit quelque chose de vrai, en esprit et en vérité, ça demande cet engagement de travailler l'amour, l'humilité et le devoir, que ce soit ici dans cette église ou ailleurs. Mais en tout cas, c'est ce à quoi Christ nous appelle par la bouche de Paul. Si parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de venir ici, je rappelle, je ne suis pas du tout en train de dire que dans cette église, on va vous mettre le grappin pour que vous vous engagiez ici. Mais déjà, ça permet de comprendre qu'est-ce qu'on essaye de vivre dans l'église. Ça, c'est un petit peu le plan, donc c'est déjà une présentation de qu'est-ce qu'on essaie de faire, pourquoi on vient ici le matin, dimanche matin, et puis qu'est-ce qu'on essaie de vivre. Et puis pour nous tous, voici la communauté qu'on aimerait construire. Si vous le souhaitez, si vous n'en faites pas encore partie, bienvenue dans cette aventure où on peut croître pas à pas. Et ce qui est touchant, c'est que parfois, j'avoue être un peu interloqué quand, en interrogeant quelqu'un sur la raison de sa venue au culte dimanche. Si la première raison est « Ah ben, ça va me faire du bien et puis ça va me donner le coup de jus dont j'ai besoin pour la semaine », j'avoue que ça me surprend toujours un peu. Je comprends, mais il me semble que Dieu nous appelle à ce que, premièrement, on vienne pour l'honorer lui. Mais là où je suis parfois repris par la Bible elle-même, c'est que dès le moment où on vient pour faire ça, il y a de la bénédiction qui s'installe dans notre vie. Il y a au moins trois bénédictions dans ce passage qui entourent le passage sur la louange communautaire au chapitre 15, au verset 5 de ce chapitre, que le Dieu de la persévérance et de l'encouragement vous donne d'être bien d'accord entre vous, selon Jésus-Christ, pour que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis à la fin de ce... Après, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit-Saint. Donc oui, si on vient ce matin, c'est pour louer Dieu, mais il y a une bénédiction qu'on va trouver ici. C'est Dieu qui l'a promise. Donc vraiment, soyons encouragés ce matin à nous engager encore un peu plus dans cette communauté en travaillant l'amour, l'engagement et l'humilité pour que Dieu soit vraiment glorifié. Voilà, je vais prier et puis on pourra ensuite chanter un chant. Notre Dieu, on te remercie parce que te louer nous fait du bien. Et on te remercie parce que tu as instauré cette communauté pour pouvoir le faire ensemble. Et merci de nous expliquer un peu avec cette lettre que si on veut que notre louange t'honore vraiment, on a besoin de progresser en amour, en engagement mutuel et en humilité. Et on te prie que tu nous aides vraiment à être ces artisans pour que tu sois glorifié. Amen.
Personne qui fait les annonces.